Il est 18h et sur France Culture, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté ce soir par Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Attentat terroriste ou attaque isolée, un homme a été abattu par la police londonienne cet après-midi. Armé d'un couteau, il avait attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche sur le pont de Londres en début d'après-midi. Un cinquième jour de grève sur toutes les antennes de Radio France. Vous l'avez entendu, de nombreux salariés se sont rassemblés cet après-midi devant le ministère de la Culture. Que se passe-t-il à LREM? Deux nouvelles défections de députés en moins d'une journée. Deux femmes qui dénoncent le mauvais fonctionnement et le manque de transparence du parti. Le mur du 5 décembre, journée annoncée comme celle d'une grève totale. Réunion de crise en ce moment même à Matignon. Coup de froid sur les relations franco-turques, l'ambassadeur de Turquie en France convoqué après les attaques du président Erdogan contre Emmanuel Macron, des attaques considérées comme des insultes par l'Élysée. Un homme abattu par la police à Londres, il s'était attaqué à des passants sur le London Bridge avec une arme blanche en début d'après-midi. Plusieurs personnes ont été blessées. La police londonienne a décidé de traiter cette agression comme s'il s'agissait d'une attaque terroriste, Eric Bégala.
Oui, Isabelle, Scotland Yard vient de le confirmer il y a une demi-heure. C'est son unité antiterroriste qui a donc repris l'enquête. A priori, l'incident s'est déroulé entre 14h et 15h30 local, sur le London Bridge à Londres. Un homme grand, barbu, armé d'un couteau a poignardé plusieurs passants sur le London Bridge qui enjambe la Tamise au cœur de Londres, à proximité du quartier de la City et qui est d'ailleurs très fréquenté à cette heure-là. La police parle de plusieurs blessés, la mairie de Londres évoque des blessés graves, sans plus de précision. Il semble, ce sont les images vidéo prises par les passants et diffusées sur les réseaux sociaux quasiment en temps réel qui l'attestent, il semble que l'homme ait été en grande partie maîtrisé et désarmé par plusieurs de ses passants sur le pont quand les spécialistes de la police sont parvenus sur les lieux. On distingue même sur ces images l'un de ses passants tenant à la main un large couteau de cuisine manifestement retiré à l'agresseur et criant à ses proches et en catalan de reculer. Une fois la mêlée dégagée, les policiers font alors usage de leurs armes à au moins deux reprises, touchant l'homme au sol. Il devait décéder quelques minutes plus tard, mais non sans avoir au préalable dégagé sa veste et révélant ce qui ressemblait à une ceinture garnie d'explosifs. Scotland Yard vient de préciser que la veste d'explosifs était absolument factice.
C'est quand même un choc dans Londres et dans ce quartier. Il faut dire que ce quartier de London Bridge a été le théâtre il y a 2 ans d'une attaque djihadiste. Des hommes avaient foncé en voiture sur les passants avant de semblables attaques au couteau dans le quartier voisin de Borough Market. Ces attaques avaient fait 8 morts et une 50aine de blessés. En Irak, après 2 mois de contestation contre le pouvoir, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi a annoncé sa démission aujourd'hui. La répression du mouvement de contestation contre le pouvoir a déjà fait plus de 400 morts et des milliers de blessés dans le pays. 16 manifestants ont encore été tués aujourd'hui par la police à Nassiriya, dans le sud de l'Irak. 25 personnes arrêtées aujourd'hui aussi en Algérie, juste avant le départ de la manifestation du vendredi, qui se tient maintenant depuis 41 semaines. Le Irak, ce mouvement populaire, après avoir obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika en avril, exige à présent le démantèlement du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Les manifestants refusent que ce soit ce système qui organise l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Ce n'est pas une déclaration, ce sont des insultes. L'ambassadeur de Turquie en France va être convoqué au ministère des Affaires étrangères, sommé par la France de s'expliquer sur les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a jugé qu'Emmanuel Macron était en état de mort cérébrale. Une déclaration qui n'était pas faite pour apaiser les tensions à quelques jours seulement d'un sommet crucial de l'OTAN, Bertrand Galichet.
Oui, sans l'ombre d'un doute, un incident diplomatique, des insultes qui n'appellent aucune réponse mais exigent des explications, réagit cet après-midi l'Élysée. En réalité, les propos du dirigeant turc sont en quelque sorte la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la patience française. Je m'adresse depuis la Turquie au président français Emmanuel Macron et je le redirai à l'OTAN, acclamait le président turc en tutoyant à distance son homologue français, fais d'abord examiner ta propre mort cérébrale. Ces propos d'une extrême virulence augurent d'une ambiance plutôt fraîche mardi prochain à Londres où les deux dirigeants vont vont se retrouver pour une réunion à quatre sur la Syrie, en compagnie d'Angela Merkel et de Boris Johnson, en marge du 70e anniversaire de l'OTAN. Car le président turc ne s'est pas arrêté là, qualifiant Emmanuel Macron d'amateur et lui enjoignant de verser sa quote-part à l'Alliance Atlantique, Recep Tayyip Erdogan assure que le président français ignore tout de la lutte antiterroriste avant de conclure « c'est pour cela que les gilets jaunes ont envahi la France ». Un contentieux qui n'a rien de neuf, même si le ton est monté d'un cran hier, avec les propos assez agressifs du ministre turc des Affaires étrangères, accusant Emmanuel Macron de soutenir une organisation qualifiée de terroriste par Ankara, à savoir la milice kurde des unités de protection du peuple. Cette déclaration répondait aux reproches faits à la Turquie par le président français d'avoir mis ses alliés devant le fait accompli avec l'intervention militaire turque en Syrie qui met en péril l'action contre Daesh. Un sujet récurrent autour de la question des Kurdes, mais en toile de fond apparaissent aussi les tensions très fortes sur le rôle de la Turquie dans l'OTAN. La France entend mener le débat sur ce sujet au sein de l'Alliance Atlantique et cela ne plaît pas du tout à Ankara.
Après la collision de deux hélicoptères qui a entraîné la mort de 13 militaires français en opération au Mali, la France dément catégoriquement la revendication de l'État islamique qui prétendait avoir provoqué l'accident en tirant sur l'un des hélicoptères. Il n'y a pas eu de tir djihadiste sur nos hélicoptères, affirme le général Lecointre, le chef d'état-major qui maintient la version d'un accident, d'une collusion accidentelle pendant une opération de combat. Il aura fallu 4 ans d'enquête. Le parquet national antiterroriste annonce aujourd'hui que 20 personnes seront renvoyées aux assises pour les attentats du 13 novembre 2015. Outre Salah Abdeslam, 19 personnes sont donc accusées d'être les planificateurs, les logisticiens, les convoyeurs ou des intermédiaires de ces attentats qui ont fait plus de 130 morts à Paris et Saint-Denis. Mobilisation générale en prévision de la grande journée de grève du 5 décembre. Les transports, les écoles, les hôpitaux et à Matignon, on se mobilise aussi sur le thème « Mais comment faire en sorte de limiter l'impact de la grève pour les Français ?» Une réunion en forme de véritable séminaire gouvernemental qui a commencé depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant. Alors autour d'Édouard Philippe, les ministres des Transports, mais aussi de l'Intérieur, du Travail, du Budget et de la Santé, 7 ministres qui veulent tenter à Nord d'éviter un véritable jeudi noir.
Oui, et la première inquiétude porte évidemment sur les transports, alors que les syndicats annoncent déjà une mobilisation massive. Le plan que prépare le gouvernement est calé sur un mouvement susceptible de se prolonger plusieurs jours, avec une attention particulière à l'Île-de-France, où 9,5 millions de déplacements en transport en commun sont enregistrés chaque jour. Parmi les hypothèses sur la table, la mobilisation de cars privés pour aider les franciliens à se déplacer. La SNCF, tout comme d'ailleurs la RATP pour le métro parisien, ont eux déjà mis en alerte leurs conducteurs de réserve qui roulent quelques fois dans l'année en remplacement des cheminots absents, même si ces derniers sont aussi susceptibles de faire grève. La RATP a par ailleurs noué un partenariat avec 32 sociétés, vélo, trottinette en libre-service, VTC ou covoiturage pour proposer des alternatives. La région Île-de-France a quant à elle déjà annoncé un certain nombre de facilités. Elle finance la gratuité du covoiturage pendant les jours de grève. Elle a aussi décidé d'avancer d'un mois sa prime de 500 € pour l'achat d'un vélo électrique. Voilà pour les transports. Du côté des écoles, on a déjà quelques estimations sur les perturbations. Selon le SNUIPP-FSU, le premier syndicat du primaire, entre 10 et 20% des écoles ont déjà annoncé qu'elles seraient fermées jeudi prochain.
C'est aussi la grève à Radio France, 5e jour de grève pour l'ensemble des antennes radio du service public. Après l'annonce du plan d'économie qui prévoit 300 suppressions de postes, c'est-à-dire à peu près 6% des effectifs. Les salariés qui disent qu'on ne peut pas faire mieux avec moins de moyens et que c'est un coup très rude alors que les audiences montrent le succès des chaînes de Radio France. De nombreux salariés se sont donc rassemblés cet après-midi devant le ministère de la Culture où, Maxime Tellier, ils n'ont pas été reçus.
Oui, environ 200 personnes sous les fenêtres du ministère de la Culture, journalistes, techniciens, producteurs, réalisateurs, musiciens également, des choristes aussi qui ont donné de la voix d'ailleurs. Il faut dire qu'ils sont les plus menacés par ce plan d'économie qui prévoit la suppression d'un tiers des postes dans le cœur de Radio France, 30 personnes de moins. Sur les banderoles, les manifestants dénoncent un plan mené sans concertation, un plan qui vise à affaiblir le service public. On ne peut pas faire plus avec moins de moyens, mais en face, pour l'instant, c'est porte close ou c'est tout comme. La DRH de Radio France a bien reçu les syndicats hier soir, mais n'a fait aucune concession. Quant à la tutelle, le ministre de la Culture, Franck Riester, il n'a pas trouvé de temps pour recevoir une délégation cet après-midi. Il a répété ce matin sur BFM TV que ce plan était bien soutenable.
La grève va donc continuer. Les salariés ont voté la poursuite du mouvement ce midi en Assemblée Générale.
Oui, à l'appel de la CGT, désormais seul syndicat ayant déposé un préavis. La grève a été reconduite pour ce week-end et pour lundi. Les autres syndicats préfèrent, eux, économiser les forces des salariés de Radio France. Ils prévoient de déposer d'autres préavis, mais plus tard, la mobilisation pourrait connaître un regain jeudi prochain, le 5 décembre, à l'occasion du mouvement national contre la réforme des retraites. D'autres syndicats évoquent janvier aussi, avec l'arrivée du projet de loi audiovisuelle en discussion à l'Assemblée nationale. Un projet, faut-il le rappeler, qui prévoit la création d'une holding entre France Télévisions et Radio France pour créer des synergies et de nouvelles économies. En bref, le conflit à Radio France est parti pour durer.
On ne négocie pas trop en revanche à LREM. Deux nouvelles portes qui claquent en moins de 24 heures. Deux députés supplémentaires qui quittent La République En Marche, mais annoncent continuer à siéger sous les couleurs LREM à l'Assemblée. À mi-parcours donc du mandat présidentiel et dans l'optique des municipales, les marcheurs fatiguent, l'hémorragie se poursuit et la liste des défections s'allonge. Et à chaque fois, Pierre Neveu, les explications données illustrent bien la difficulté à construire et à tenir un groupe majoritaire.
Eh oui, les raisons de désaccord, pour ne pas dire de désamour, sont nombreuses. Hier, Marion Lenne et aujourd'hui Pascal Fontenelle-Personne font le même constat. Elles reprochent le fonctionnement du parti LREM et dénoncent une certaine opacité et une gestion locale calamiteuse. Et si toutes ces tensions remontent aujourd'hui des territoires, eh bien c'est parce que le parti investit au fur et à mesure ses têtes de liste pour les municipales en favorisant de ci, de là, des alliances avec des candidats LR ou PS sortant. Autant dire que ces oucasses parisiens ne sont pas vraiment appréciés par les marcheurs de terrain. À l'Assemblée nationale, les défections ont régulièrement ébranlé le groupe LREM, Jean-Michel Clément, Jennifer de Tannerman ou encore Mathieu Orphelin. Et quand ce proche de Nicolas Hulot a claqué la porte en tout début d'année, eh bien c'était pour dénoncer le faible bilan de la majorité présidentielle sur la question de la transition écologique. D'autres signes de fracture sont apparus par l'aile gauche du parti lors de la discussion et du vote de projet de loi. Des frondeurs se sont ainsi constitués contre la loi Asile et immigration, mais aussi lors du vote de la loi anticasseurs, ils étaient alors une cinquantaine à s'abstenir. Tout cela montre combien il est difficile de réunir sous une même bannière des élus aux sensibilités différentes, accusés dans un premier temps de n'être que de simples godillots. Eh bien, des parlementaires macronistes ont décidé de faire entendre leur sensibilité. Le problème pour Édouard Philippe, c'est qu'à mi-parcours, eh bien, le nombre de soutiens se réduit. 11 députés marcheurs ont déjà quitté le groupe. Une quinzaine de défections supplémentaires signeraient la perte de la majorité absolue à l'Assemblée, autant dire le scénario du pire.
Les scandales de pédophilie dans l'Église de France. Aucune condamnation n'a été requise aujourd'hui contre le cardinal Barbarin qui comparaissait en appel à Lyon pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. 24 membres d'un réseau de proxénétisme condamnés aujourd'hui à Lyon aussi à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme. Il s'agit d'un réseau qui faisait venir en France des jeunes femmes nigérianes sous prétexte de les employer comme réceptionnistes d'hôtels, apprentis coiffeuses ou nounous. Une des têtes du réseau, une femme nigériane, est toujours en fuite. Les deux autres, un Français et un pasteur nigérian, ont été donc condamnés pour proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains. Vous écoutez France Culture, il est 18h13.